Merci d'être venu ce soir. Donc merci à Benoît Pelopidas d'avoir accepté notre invitation. Il sera introduit par Camille Rollins qui travaille à l'Université de Lausanne. Ces conférences sont organisées avec le soutien de la ville de Saint-Étienne et du département de la Loire et en partenariat avec la Rotonde École des Mines et le Centre Max Weber de l'Université de Saint-Étienne. Je vous annonce les prochaines manifestations. Alors, il y a l'atelier, la prochaine conférence, ce sera le 16 novembre. Ce sera Michel Auferlé à propos de son livre qui s'appelle « Ce qu'un patron peut faire ». Pour ce qui est des ateliers, il y a l'atelier de philosophie politique sur Stuart Mill. La prochaine séance aura lieu le 25 octobre à la Maison des Associations. Nous aurons aussi un autre atelier le 8 novembre sur Michel Foucault. Voilà, donc c'est à vous.
Bon, donc souhaitons ensemble la bienvenue effectivement à Benoît Pelopidas, qui est associé de professeur en études de sécurité à Sciences Po, donc au CERI, et fondateur du programme d'études des savoirs nucléaires. Adepte aussi, on parlera bien mieux que moi, de la recherche indépendante et donc des lumières qu'elle peut nous apporter pour penser notre contemporain. Il est également chercheur affilié au Centre pour la sécurité internationale et la coopération, donc le CISAC, à l'Université de Stanford. Il a publié de nombreux chapitres d'ouvrages et articles en français comme en anglais. Si on se concentre sur les ouvrages, on peut citer avec Didier Chaudet et Florent Parmentier, L'Empire au miroir, stratégie de puissance aux États-Unis et en Russie, donc publié en 2007. Également en anglais avec Patricia Lewis, Ever Williams et Sassan Aglani, Too Close to Comfort, Case of Near Nuclear Use and Option for Policy, en 2015. Deux ouvrages aussi que vous retrouverez sur la table à l'entrée de la pièce, avec Frédéric Ramel, Guerre et conflits armés au XXIe siècle, donc en 2018, et l'ouvrage dont il va nous parler aujourd'hui, Repenser les choix nucléaires, la séduction de l'impossible, publié en 2022. Donc, bien évidemment, moi, je vais me contenter d'une brève présentation de cet ouvrage et d'une présentation où j'aimerais dire certaines choses qui se rapportent un peu aux impressions de lecture que j'ai pu avoir en le lisant, puisque je le précise d'emblée, hein, moi, je ne suis pas du tout spécialiste du sujet du nucléaire militaire, ni du nucléaire en général, de toute façon. Et ça a été pour moi ce que j'ai appelé une lecture rare, c'est-à-dire que j'avais eu... très rarement l'occasion dans mon parcours de lecteur philosophique de lire des livres sur ce sujet-là, en fait, hein, pour le dire de manière transparente. J'en connaissais deux, c'est-à-dire Le Grand Débat de Raymond Aron, publié en 1963, et un livre de Gunther Anders, Hiroshima et partout, les deux étant mentionnés dans l'ouvrage. Donc une lecture dépaysante, à la fois exigeante et accessible. Donc c'est deux qualités qui n'est pas évident de faire tenir ensemble, mais qui tiennent ensemble dans ce livre-là. Et un livre aussi, j'imagine que beaucoup d'entre vous connaissent la métaphore d'Isaiah Berlin sur les renards et les hérissons, c'est-à-dire soit ceux qui, au fond, savent une chose, mais la savent à fond et la creusent infiniment, qui sont les hérissons, ou ceux qui papillonnent et qui savent un grand nombre de choses, les renards. Ben là, il y aurait presque besoin d'une troisième métaphore, c'est-à-dire les bénéfices de la sédimentation. C'est-à-dire qu'on voit que c'est une recherche qui s'efforce à faire tenir dans un livre de 300 pages, 15 ans de réflexion et de travaux, travailler, retravailler, critiquer, autocritiquer, synthétiser, et pour en arriver au livre qu'on tient ici. Donc c'est un livre aussi qui soulève, vous le verrez, une problématique démocratique, et en le lisant, on pense à deux auteurs, peut-être les deux plus grands... deux des plus grands penseurs de la démocratie. Alors le premier, c'est bien évidemment Tocqueville, et pas seulement parce que l'exergue d'un des chapitres est un extrait de correspondance de Tocqueville avec son ami Gobineau, puisque, j'imagine que beaucoup d'entre vous le savent, dans le deuxième tome de la démocratie en Amérique, il y a plusieurs chapitres sur ce que la démocratie fait aux armées. Et donc il est question du recrutement, il est question de la discipline, il est question de l'état d'esprit, mais il n'est pas question de la saisie démocratique des choix stratégiques, et là-dedans, il en est question. Le deuxième penseur de la démocratie auquel ça m'a fait penser, c'est John Dewey, l'américain, puisqu'il y a dans ce livre une critique à la fois extrêmement assise en termes de charge de preuve et acerbe de l'expertocratie nucléaire. Et on sait que John Dewey avait eu, avec un publiciste américain de son temps qui s'appelait Walter Lippmann, une querelle sur ce thème-là. C'est-à-dire, Lippmann défendait que nos sociétés étaient devenues trop complexes pour ne pas les confier à des experts. Dewey défendait au contraire l'idée de public démocratique. Benoît Pélopidas vous montrera que cet argument de la trop grande complexité pour être confié au commun est un des arguments massus de l'expertocratie nucléaire. Et le dernier point que je voudrais mentionner, c'est que ce livre, une fois qu'on le referme, a fait un effet, moi, que j'ai appelé d'ouvroir de paradoxes potentiels. C'est-à-dire qu'on se met à se dire, je réfléchis à des choses auxquelles je n'avais jamais réfléchi, et je ne suis pas vraiment certain d'avoir des idées claires là-dessus en tant que citoyen. C'est-à-dire, le livre est clair, mais mes idées en tant que citoyen deviennent moins claires, parce que je me pose des questions compliquées. Et pour faire un petit lien avec l'actualité, hein, vous savez que est récemment disparu le grand historien de la Grèce et de la Rome antique, Paul Venn. Donc Paul Venn avait écrit un livre fameux qui s'appelle « Le pain et le cirque », où il se pose la question suivante. Est-ce que les masses romaines risquaient d'être politisées contre les empereurs et donc ils leur accordaient du pain et du cirque pour les dépolitiser? Ou est-ce qu'elles étaient déjà dépolitisées et qu'elles demandaient du pain et du cirque et donc qu'au fond, les empereurs leur en donnaient pour ne pas les politiser contre elles? Et bien quand on referme ce livre, on se demande, est-ce que je ne me suis jamais questionné sur les choix nucléaires de mon pays en tant que citoyen parce que je suis un irresponsable et donc après tout, j'ai les experts que je mérite? Ou est-ce que c'est parce que un discours dominant sur l'expertocratie nucléaire vise à déresponsabiliser les personnes de l'intérêt sur ces choix-là? Donc, je pense que c'est le type de question que vous poserez aussi à l'issue de la conférence de Benoît Pélopidas.
Merci beaucoup pour ces mots d'introduction et cette lecture précise. Merci à la puissance invitante. Je suis ravi d'être avec vous ce soir dans cette jolie salle. C'est ma première visite à Saint-Étienne, donc je suis ravi d'être parmi vous doublement. Je vous remercie beaucoup d'avoir décalé l'heure de votre dîner pour m'entendre. C'est vraiment, j'étais un peu gêné quand j'ai vu l'heure à laquelle j'allais intervenir. Donc je vous remercie toutes et tous d'être ici ce soir. Et je suis ravi, comme tu le disais, de vous parler du résultat des 15 dernières années de ma recherche qui m'ont conduit dans 4 pays et qui m'ont amené en 2017 à Sciences Po à créer le programme d'études des savoirs nucléaires, qui est le premier programme de recherche indépendant en France sur les questions nucléaires. Qu'est-ce que je veux dire par là ? On va en reparler, mais c'est très simple. C'est-à-dire, toutes les entités se prétendent indépendantes. C'est très très rare que vous ayez quelqu'un qui dise « moi je suis expert et je suis subordonné ». Donc la question et l'enjeu analytique, c'est de dire « mais comment est-ce qu'on peut donner du sens à cette appellation ? Qu'est-ce que c'est que la recherche indépendante ?» Moi, dans le livre et dans la pratique de l'équipe, qui est une équipe internationale, interdisciplinaire, on en donne au moins 3 critères. Le premier critère très simple, c'est on prend acte d'un résultat de la recherche dans la plupart des domaines de l'activité sociopolitique, qui est que le financement de la recherche par des entités porteuses de conflits d'intérêts produit des biais. C'est un résultat banal, mais si on en tire la conséquence qu'on devrait en tirer, il faut s'interdire des financements issus de puissances porteuses de conflits d'intérêts. Ce qui veut dire que quand on fait le travail que mon équipe s'efforce de faire, il faut, c'est ce que nous avons fait, s'interdire les financements des fabricants de l'arsenal, du ministère de la Défense ou de toute entité défendant une politique de désarmement nucléaire. Et à ce stade, vous vous dites, mais qu'est-ce que c'est que cet individu ? Il dit vraiment des banalités. La tristesse, et le premier élément, c'est qu'en fait, ça n'est pas une banalité. C'est-à-dire, ça n'existait pas, en fait, en France avant 2017, au point qu'un certain nombre de collègues, dont on pourra parler si ça vous intéresse, m'ont dit que j'allais mourir de faim en 5 minutes. Donc la bonne nouvelle, et là ce soir je vais vous parler surtout d'un, c'est que le programme d'études des savoirs nucléaires est là, fête son 5e anniversaire, et que nous sommes financés exclusivement sur la base de la reconnaissance académique des mérites du travail académique, c'est-à-dire un financement en double aveugle par des experts, par des pairs disciplinaires qui sont reconnus pour leurs compétences, mais qui ne savent pas qui je suis et je ne sais pas qui ils sont. Je vous dis ça simplement parce que les entités multiples qui essayent de faire en sorte que la recherche académique n'ait pas droit de cité prétendent que, en fait, il n'y a pas de possibilité de recherche indépendante parce que nous sommes tous employés de l'État. Ce qui est évidemment faux, si vous voulez. En l'occurrence, le financement du programme, c'est précisément venu de l'Agence nationale de la recherche, du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche et du Conseil européen de la recherche, exclusivement sur la base de l'évaluation académique à l'aveugle. C'est pas du tout être salarié d'un ministère qui vous paye à la fin du mois. C'est pas du tout ça. Et dire que tout est équivalent, ça veut dire que la science n'est pas possible, ce qui est une affirmation grave mais néanmoins fréquente. Donc ça, c'est la première composante de la recherche indépendante, l'indépendance financière. La deuxième composante, et c'est pour ça que je vous parle d'équipe, c'est que pour poser un certain nombre de questions, comme les questions dont on va parler ce soir, il faut mobiliser des compétences diverses et variées qu'évidemment, à moi seul, je ne rassemble pas. Donc il a fallu mobiliser des protocoles et créer des protocoles de recherche interdisciplinaires pour poser un certain type de questions, et vous allez le voir dans la suite de la présentation. C'est le deuxième élément. Le troisième élément, c'est une faute méthodologique que nous nous interdisons à faire et qui est partout dans l'expertise nucléaire française, qui est, pour ceux qui font des sciences humaines, je m'excuse de dire une banalité, quand vous faites de l'analyse, vous ne devez pas naturaliser les catégories des acteurs comme si elles étaient des catégories analytiques. Elles doivent être traitées comme des catégories indigènes. Et vous ne devez pas vous les approprier. Nos trois critères de distinction de la recherche indépendante sont les trois critères que je viens de poser. Et j'y insiste parce que c'est un moyen simple pour lutter contre cette idée qu'au fond, c'est une notion floue, qu'on ne comprend pas bien ce que c'est. Si, si, on comprend très bien ce que c'est. Et vous allez voir qu'en 5 ans, avec une dizaine de personnes motivées, en fait, on comprend non seulement ce que c'est, mais en fait, on produit de la connaissance. Je vais vous parler ce soir du livre Jaune Canari. Nous avons aussi produit un autre livre l'année dernière qui s'appelle Toxique, enquête sur les essais nucléaires en Polynésie. Sur lequel vous pourrez aussi me poser des questions, je vous en dirai 2 mots très vite. Bien, ce livre-là va nous amener à reconnecter, comme ça a été annoncé, la question démocratique et la question nucléaire. Mon point de départ, c'est vraiment de dire, dans la mesure où nous produisons des politiques nucléaires qui nous engagent pour plusieurs générations, vous avez sans doute entendu l'affirmation de la ministre des Armées, Mme Parly, l'année dernière, qui dit « Les sous-marins nucléaires lanceurs d'engins de nouvelle génération que nous sommes en train de construire ont vocation à naviguer jusqu'en 2090. » Donc on parle de planification industrielle, pas à long terme, mais à très long terme. Donc moi, ma question, c'est quels sont les types de justifications qui sont cohérentes avec différents types de choix relatifs à un arsenal nucléaire ? Donc, pourquoi est-ce que je vous embête un soir de la semaine en reconnectant les choix nucléaires à la démocratie ? Essentiellement pour cette raison-là, parce qu'il nous engage pour plusieurs générations, et ça c'est un point sur lequel j'insiste, que la guerre nucléaire ait lieu ou pas. Parce que très fréquemment, on a tendance à se dire, voilà, si la guerre nucléaire a lieu entre maintenant et le moment de ma mort supposée, de toute façon tout est perdu, et si elle n'a pas lieu, je vais être plus heureux ou plus heureuse si je n'y pense pas. Le propos que je vais avancer dans la première partie de cette présentation, c'est de vous dire qu'en fait, même si, espérons-le tous, la guerre nucléaire n'a pas lieu, nous sommes déjà saisis et convoqués en tant que citoyens par la politique nucléaire menée dans notre pays et aussi menée dans le monde. Le deuxième argument, c'est de dire que, et ce sera la deuxième partie de ma présentation ce soir, que les justifications selon lesquelles la politique en cours serait évidente ou inévitable, eh bien, ces justifications sont soit incorrectes, soit incomplètes, et on peut le démontrer de manière très claire. Donc, encore une fois, mon propos n'est pas du tout un propos militant qui est qu'à la fin du livre, je vais vous dire « voilà la politique nucléaire que vous devez défendre ». Pas du tout. Mon propos, c'est de dire « écoutez, les arguments en faveur de la politique actuelle ne sont pas cohérents avec les arsenaux construits. Si vous voulez défendre la politique actuelle, voilà les arguments qu'il faut accepter, voilà la mémoire qu'il faut accepter, voilà l'imaginaire de l'avenir qu'il faut accepter. Et par contre, voilà les alternatives disponibles pour que vous puissiez faire votre choix en connaissance de cause. C'est dans ce sens que j'espère modestement contribuer à la reconnexion entre démocratie et politique nucléaire, en offrant la possibilité du choix à partir de justifications cohérentes. Alors, je détaille un petit peu mon premier argument. Les engagements tacites attendus de vous, c'est-à-dire, je devrais m'inclure, hein, attendus de nous en tant que citoyens. D'abord, dans la mesure où nous sommes dans un monde dans lequel des puissances disposant d'arsenaux nucléaires de grande taille existent, le jeu de la dissuasion nucléaire nous demande tacitement d'être cible et d'accepter d'être cible. Parce que quand vous êtes la Fédération de Russie et que vous avez un arsenal qui fait 4500 têtes nucléaires plus 1500 voies de démantèlement, mais enfin, quand vous avez un arsenal de cette taille, la logique qui préside au dimensionnement de votre arsenal, ce n'est pas simplement une logique de la dissuasion, mais c'est une logique de ce qu'on appelle limitation des dommages si la dissuasion devait échouer. C'est-à-dire qu'il y a une partie de la politique qui consiste à cibler et détruire les armes nucléaires de l'autre avant qu'elles ne soient lancées. Et de ce fait, tous les États dotés d'armes nucléaires vont devenir des cibles prioritaires des grands arsenaux. Donc c'est dans ce sens que le citoyen d'État doté d'armes nucléaires accepte tacitement d'être une cible prioritaire, au nom de la politique de dissuasion nucléaire. Notre demande qui nous est faite, qui nous est adressée, c'est que le citoyen d'un État doté ou d'un État hôte, on pourra en parler, accepte de cautionner l'éventuelle frappe nucléaire décidée par son gouvernement pour une raison très simple qui a à voir, en un sens, avec l'évolution technologique des vecteurs qui délivrent les armes nucléaires. Pour vous le dire vite, au début des années 60, ce qui délivre les armes nucléaires change. La première génération, c'était des bombardiers. Ensuite, on passe à des missiles intercontinentaux balistiques et la vitesse de ces vecteurs est multipliée par 20. C'est un ordre de grandeur. Ce qui fait que pour qu'un missile aille de Washington à Moscou, il faut moins d'une heure. De ce simple fait, qui est une réalité technologique, vous comprenez bien qu'il n'est pas possible de mettre en œuvre une consultation démocratique de quelque ordre que ce soit. Donc, la demande implicite, c'est de dire il y a une doctrine nucléaire, il y a un chef de l'État qui a la responsabilité constitutionnelle de la mettre en œuvre. Donc, il nous est demandé de déléguer a priori le fait qu'il le fera au nom du corps politique tout entier, donc en notre nom, précisément parce qu'il n'y aura pas de consultation du fait de la réalité technologique que je viens de décrire. Troisième élément un peu trivial, mesdames, messieurs, je suppose que vous payez toutes et toutes vos impôts, je ne vais pas vous demander, mais à supposer que vous le fassiez, évidemment, le contribuable, on lui demande d'accepter un consentement à l'impôt élémentaire, donc consentir au fait qu'une partie de ces impôts vont financer l'arsenal nucléaire national. Et vous voyez, tout ça, ça reste vrai, même si nous vivons heureux et en l'absence de toute forme de guerre nucléaire, ce qui sont des engagements non négligeables. Et ils s'appliquent à vous, mais aussi à vos descendants jusqu'en 2090, pour l'instant, peut-être plus tard. Je détaille. Quand je dis d'être cible, c'est cible de plusieurs choses. Ça peut être cible d'une frappe nucléaire délibérée, depuis les États qui ciblent l'État où nous résidons, j'en ai parlé, mais ça peut être aussi d'un lancement accidentel ou non autorisé dans n'importe quel État qui cible l'État où nous résidons. Ça peut être aussi être la victime d'une explosion accidentelle dans l'arsenal qui se trouve dans notre propre pays. Sur la question de la caution, je pense que c'est assez clair, donc j'y reviens pas. Sur la question de la contribution fiscale, je vous donne juste des ordres de grandeur. Aux États-Unis, on est à des sommes considérables, mais en France, dans la loi de programmation militaire actuelle, on est à des sommes qui ont augmenté. Là, on parle a priori de 6 milliards d'euros par an. On pourra discuter du détail et de comment cette somme change. Un élément qui est intéressant, c'est dans l'histoire des budgets nucléaires, on a établi, et ça c'est un résultat assez stable, que les prévisions budgétaires sont systématiquement des sous-estimations. Dans quelle proportion la sous-estimation est sous-estimée est un enjeu méthodologique auquel je n'ai pas la réponse. Mais on sait que systématiquement, les chiffres sur lesquels on table sont des sous-estimations. Voilà. Maintenant, sachant cela, penchons-nous sur les justifications selon lesquelles la politique en cours serait inévitable, pour vous avancer qu'elles sont soit incorrectes ou incomplètes. On en a, enfin, il peut y en avoir plus que quatre, mais pour ce soir, je vais prendre quatre justifications communes qui sont dans le discours officiel, dans la presse et dans le discours expert. La première, c'est que les armes nucléaires françaises, supposément, protège la France. Deuxième justification, c'est que des alternatives politiques sont superflues, étant donné notre contrôle parfait sur les armes. Cet argument, il est simplement de dire, depuis 1945, nous n'avons pas connu d'explosion nucléaire non désirée, et c'est très bien comme ça. De ce fait, on peut en déduire que notre contrôle sur ces systèmes d'armes est adapté. Et donc, continuons comme ça, ne changeons pas une équipe qui gagne. La troisième justification, c'est, de toute façon, on n'a pas besoin d'autre chose, puisqu'on a des experts qui proposent déjà des choix cohérents et adéquatement justifiés. Il manque un « et », je vous prie d'excuser la faute typographique. Et la quatrième justification, c'est que la politique nucléaire est démocratique puisqu'il y a, ça vous l'avez entendu sans doute souvent, il y a consensus en France sur la politique de dissuasion nucléaire. Bien, reprenons ces quatre justifications une par une. Je vous parlais il y a quelques minutes des missiles balistiques. Ce que les missiles balistiques ont fait, c'est tout simplement l'impossibilité de la protection des populations face à une attaque nucléaire délibérée, inadvertante ou accidentelle. Donc on ne devrait pas parler de protection, mais on devrait parler de pari sur la vulnérabilité comme condition supposée de la sécurité. Cette notion de vulnérabilité, elle reconnaît qu'on n'a pas justement de protection contre des missiles balistiques stratégiques. Vous avez sans doute entendu parler du fait que les États-Unis d'Amérique ont développé à grands frais ce qu'ils appellent une défense anti-missile balistique. On peut en parler en détail si vous voulez, j'ai des membres de l'équipe qui travaillent sur ça. Pour résumer, cette défense anti-missile balistique n'est pas efficace, au point que la personne qui est le chef de l'agence en charge de sa promotion a dit il y a 3 ans, nous avons une chance non nulle d'intercepter des missiles ennemis. Vous imaginez bien que cet homme dont la fonction est de vous expliquer que sa solution technologique marche, s'il avait quoi que ce soit à nous annoncer comme bonne nouvelle, il n'aurait probablement pas hésité à le faire. Donc nous n'avons pas de protection contre des attaques nucléaires délibérées, inadvertantes ou accidentelles. Et le discours de la protection est simplement un renversement de la réalité qui ne nous permet pas de voir le pari qu'on est en train de faire. Cette vulnérabilité, comme je vous disais, elle est accrue par la possession d'armes nucléaires, précisément parce qu'on devient une cible prioritaire. Et évidemment, ce pari sur la vulnérabilité, c'est une vulnérabilité à ce que peut faire la technologie et à la détermination de l'ennemi. C'est-à-dire, c'est un pari qui dit notre capacité à délivrer une représailles nucléaire va effrayer l'ennemi et cette peur va le rendre prudent. Mais ça suppose aussi que dans aucun des arsenaux qui ciblent la France, il n'y aura de frappe délibérée ou accidentelle. Donc ça suppose que la technologie des autres va très bien. Ça suppose aussi que l'ennemi est dissuadable, dissuadable par notre menace, et n'est pas prêt à risquer la mort de son régime pour mettre fin à la France. Parce que le jour où on a un ennemi déterminé qui dit « mais de toute façon, moi j'ai pas du tout peur de mourir », eh bien, on ne peut pas protéger notre population. Donc il faudrait arrêter de parler de protection. C'est juste une inexactitude. Est-ce que je fais une bêtise? Il faut que je reste éloigné du micro, c'est ça? D'accord. Non, mais dites-moi hein, si je ne fais pas bien la chose. Ok. Donc ça, si vous voulez, c'est le premier correctif qu'il faut apporter. C'est-à-dire la dissuasion nucléaire n'est pas une politique de protection, c'est une politique qui parie sur la vulnérabilité comme condition de la sécurité, qui nous met à la merci d'un accident technologique et de la détermination de l'ennemi. Deuxième élément, sur le contrôle parfait. Et ça, ça va intéresser ceux qui, parmi vous, ont une sensibilité soit historique, soit conceptuelle. Il y a les deux bouts. Ce qui est intéressant, si vous voulez, c'est que depuis le début des années 60, si on fait un travail d'archives, on trouve que des dirigeants politiques et militaires aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Union soviétique puis en Russie, là vous avez deux exemples sur la diapositive, disent, dans certains cas particuliers, non pas tout le temps, mais dans certains épisodes particuliers, ce qui nous a sauvés, c'est la chance. Là vous voyez Robert McNamara, qui dans le documentaire d'Errol Morris qui s'appelle The Fog of War, qui est un documentaire sur sa vie, il dit... On est passé à ça au moment de la crise des missiles de Cuba, et il a cette phrase « In the end, we lucked out. It was luck that prevented nuclear war. » À la fin, on a eu du pot. C'est la chance qui a évité la guerre nucléaire. Entendez-moi bien. Mon propos n'est pas de dire « Parce que ces gens-là disent on a eu de la chance, il faut donc les croire sur parole et dire on a eu de la chance. » Mon propos, il est double. Il est de dire d'abord... On doit se rendre capable de distinguer les cas où ce qui nous a permis d'éviter les explosions nucléaires non désirées, ce sont effectivement des pratiques de contrôle mises en place à cet effet. Et ça, c'est le succès du contrôle, le succès de la dissuasion. On doit pouvoir distinguer ces cas des cas où ce qui nous a permis d'éviter des explosions nucléaires non désirées, c'est autre chose que des pratiques de contrôle. Si c'est la défaillance de pratiques de contrôle, si c'est parce que des gens ont défailli ou ont désobéi ou que la technologie a échoué, qu'on s'en est bien tiré, ça, ça ne doit pas pouvoir être compté et confondu avec la catégorie précédente. De la même manière, si ce sont des paramètres extérieurs à ce qui a été pris en compte par les politiques de contrôle, ça ne doit pas pouvoir rétrospectivement être mis au crédit de ces politiques de contrôle. On doit être en mesure de faire cette distinction-là. Eh bien, avant que je me fatigue sur le sujet, on n'était pas en mesure de le faire. Ce qui est risible. Et vous allez voir à plusieurs reprises, je vais vous dire ça. Ce que j'ai fait, c'est vraiment des choses très très simples qu'on aurait pu faire 40 ans plus tôt. Mais le problème, c'est qu'on ne les a pas faites. Le deuxième élément sur lequel je voudrais insister, et c'est pour ça que je voudrais vous raconter cette liste de dirigeants que vous avez en détail dans le livre, c'est que ces déclarations sont à prendre au sérieux simplement parce que ceux qui les font tireraient bénéfice à faire des déclarations contraires. Ils auraient tout intérêt à nous dire « On a échappé à des explosions nucléaires non désirées pendant la crise de X, Y ou Z parce que je suis un dirigeant éminemment compétent et j'ai réussi à gérer la crise avec un talent qui force le respect. » Non, non, ils ne vous disent pas ça. Et quand ça arrive à quelqu'un comme M. McNamara, qui a passé toute sa carrière à vous expliquer qu'il était un homme extrêmement intelligent et qui était capable de mettre en place des procédures de contrôle sans équivalent, il faut prendre au sérieux ces signaux et il faut justement nous rendre capables d'évaluer la chose. Donc ce que vous lirez dans ce livre, si vous avez la gentillesse de le lire ou même de m'en parler après, c'est justement une définition distinctive de la chance comme l'opposé du contrôle et des preuves empiriques issues d'archives et d'entretiens aux États-Unis, au Royaume-Uni et en France, qui montrent que la chance a été nécessaire à l'évitement d'explosions nucléaires non désirées. Et ce qui est important aussi pour vous d'apprécier, c'est que mon évaluation de la chance est très probablement une sous-estimation. Pourquoi ? Pour une série de raisons très simples. La première, c'est que mon évaluation de la chance dépend de la disponibilité des entretiens et des sources primaires. C'est-à-dire que mon travail, il porte essentiellement sur, comme je vous l'ai dit, les États-Unis, le Royaume-Uni et un petit peu la France, même s'il y a des problèmes en France de déclassification en la matière. Et donc, vous vous doutez bien que si, sur ces trois pays, on a trouvé plusieurs, et en fait plus de 10 cas de chance, prétendre que mon évaluation de la chance est exhaustive, c'est dire que, alors qu'on est à plus de 10 dans trois pays, dans tous les autres États dotés d'armes nucléaires sur lesquels on sait beaucoup moins de choses, mais on supposerait qu'il n'y en a eu aucun. Ce qui est une supposition éminemment optimiste. Deuxième raison pour laquelle mon évaluation de la chance est très probablement une sous-estimation, on va parler, si ça vous intéresse aussi, parce que cette vieille dame a 60 ans aujourd'hui, on va parler de la crise de Cuba, qui a donc 60 ans au mois d'octobre. Il nous a fallu entre 30 et 40 ans pour prendre la mesure des dangers encourus pendant la crise de Cuba. 30 à 40 ans. Alors même que c'est la crise nucléaire la plus étudiée de l'âge nucléaire. Il n'y a pas d'équivalent. Il y a littéralement tout un champ d'études qui se consacre à ça. Il nous a fallu 30 à 40 ans pour prendre la mesure de ces dangers, ce qui veut dire que pour des raisons de limite d'accès aux archives et de temps de la découverte scientifique, on ne peut pas se dire que ce qui s'est passé dans les dernières 30 à 40 années, c'est simplement une absence de cas de chance. On doit se dire ce qui s'est passé sur les dernières 30 à 40 années, on est littéralement complètement aveugle à son sujet, et donc on découvrira peut-être plus tard si oui ou non il y a eu des cas de chance. Vous voyez, c'est pas la même chose que de dire on peut déterminer qu'il n'y en a pas eu. Ça, ce serait faire preuve de confiance excessive. Voilà les raisons pour lesquelles mon évaluation de la chance est très probablement une sous-estimation. Vous avez aussi dans le livre une typologie et une illustration de tous les modes, par des incohérences logiques, de déni de la chance ou de création de l'illusion de l'impossibilité de son évaluation. Troisième justification, donc vous voyez, on ne peut pas juste être confortable dans l'idée que puisque de toute façon on a tout contrôlé jusqu'à présent, on va continuer comme ça. Non, 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 non. Jusqu'à présent, on a dans certains cas très bien contrôlé et dans d'autres cas, on a bénéficié de désobéissances ou d'éléments extérieurs aux pratiques de contrôle et il nous a fallu 30 à 40 ans pour nous en rendre compte et encore aujourd'hui, quand la recherche indépendante arrive à l'établir, vous avez tout un tas de gens qui s'efforcent de dire « Ah non, non, il ne faut surtout pas rendre ces résultats publics. » Je pourrais vous donner des détails. Donc ça, c'est le deuxième volet de la justification qu'il faut garder en tête. Troisième, c'est on aurait un discours expert déjà, il y a effectivement déjà des experts du nucléaire en France, et donc on pourrait se dire que ces gens-là ont pour fonction déjà de produire des justifications cohérentes et de produire la possibilité du choix. Eh bien, le problème, c'est pour ça que je vous ai embêté au début sur la définition de la recherche indépendante, le problème c'est que le discours nucléaire vient de think tanks financés par le ministère des Armées, les fabricants de l'arsenal et le commissariat à l'énergie atomique. Donc il y a un problème de dépendance financière structurelle qui est présenté comme normal. Et ça empêche évidemment l'évaluation, la possibilité d'un choix entre des alternatives claires et la responsabilité des experts et des décideurs. Pourquoi la responsabilité des experts et des décideurs ? Parce que tant que la communauté parle comme un seul homme et propose à peu près la même chose, au fond, tant que tout le monde se trompe ensemble, personne n'est responsable de l'erreur. Et donc, cette communauté-là, elle fait deux fautes méthodologiques élémentaires. La première, c'est qu'elle naturalise les catégories du discours officiel, et donc elle rend littéralement impossible l'analyse et elle transforme l'analyse en incantation. Je vous donne un exemple. Cette catégorie-là parle très rarement des armes nucléaires françaises et va plutôt dire la dissuasion. Si vous dites la dissuasion, vous avez déjà résolu à peu près toutes les questions qu'on peut se poser sur l'arsenal. C'est-à-dire, vous avez déjà supposé qu'il dissuade et vous avez aussi supposé qu'il ne fait que dissuader. Vous n'avez rien prouvé de tout ça, hein, mais c'est déjà intégré dans les postulats inhérents à votre catégorie. Donc ça, c'est une première faute méthodologique. La deuxième faute méthodologique, c'est un dispositif de quête de la preuve qui est totalement inadapté. Je vous donne deux éléments qui sont deux résultats de recherche, encore une fois, hein, publiés dans des revues scientifiques à comité de lecture international, pas en France, pas chez les copains, non. Premier résultat de recherche, justement, ce que je vous disais tout à l'heure sur la chance. Il y a un expert français qui a voulu produire une réfutation du travail sur la chance, et l'argument qu'il avance, c'est de dire ben non, mais vous voyez, il y a eu progrès, puisque dans les 30 dernières années, on n'a pas de cas comme ceux que Benoît documente. Mais c'est méthodologiquement absolument, totalement absurde, puisque précisément, on sait qu'on n'a aucun accès aux archives ni aux documents sur les 30 dernières années. Donc, il transforme l'aveuglement en une affirmation de connaissance de l'absence de cas. Donc ça, c'est, vous voyez, c'est une faute méthodologique qui est risible. C'est même pas... C'est risible. Deuxième élément, qui pourra intéresser ceux d'entre vous qui sont plus penchés sur la technologie militaire, on arrive à montrer à partir d'une nouvelle analyse technique et d'archives américaines, britanniques et de quelques documents soviétiques que la première génération de la force de frappe française, au moins jusqu'en 1974, n'était pas capable de remplir les missions qui lui étaient assignées et qu'en fait les alliés, c'est-à-dire le renseignement américain et britannique et très probablement soviétique, le savaient. Les experts français ne sont pas du tout contents de cette découverte, mais ils croient que leur insatisfaction vaut réfutation. En fait, elle ne vaut rien, elle vaut insatisfaction. Et surtout, elle manifeste une faute méthodologique grave qui est qu'ils vont chercher la crédibilité de la force de frappe française dans les discours des dirigeants français. Mais ce que les dirigeants français vous disent, c'est ce qu'ils souhaitent faire, ce qu'ils veulent faire, leur projet. Pour juger la crédibilité de quelque chose, il faut aller chercher ailleurs. C'est évident, si vous voulez. Et donc, il faut faire le travail qu'on a essayé de faire. On peut tout à fait, encore une fois, on s'est peut-être trompé. Donc si il nous montre que nos documents sur les Anglais, les Américains, sur la capacité technique du Mirage 4, que sur tout ça on s'est trompé, là on considérera la réfutation. Mais si la réfutation c'est de dire ah, mais vous comprenez, les dirigeants français voulaient que ça marche, mais bon, moi aussi je voudrais avoir un tapis volant. Hein. Ça ne nous dit rien sur le fait que le tapis volant ne vole toujours pas. Hein. Donc vous voyez... Là, il y a quand même une faute méthodologique assez sérieuse sur l'endroit où on va chercher les preuves. Et ce refus du conflit d'intérêts et cette rigueur qui caractérise le travail de l'équipe ont permis justement de documenter les raisons pour lesquelles on ne peut pas s'en remettre à l'expertise existante pour un panorama complet des vulnérabilités nucléaires. Qu'est-ce que je veux vous dire par là ? Quelque chose de très simple, qui a été vu par l'un des plus grands stratégistes français, qui est le général Lucien Poirier, qui dit « Dire son scepticisme sur la dissuasion nucléaire ou sur les limites de validité de la dissuasion nucléaire, c'est faire le jeu de l'adversaire. » Ce que le général Poirier nous rappelle, c'est simplement que le discours sur l'efficacité de la dissuasion, c'est pas simplement un discours descriptif ou évaluatif, c'est aussi un discours performatif qui a pour but de s'adresser à l'ennemi potentiel et de le convaincre que ça marche. Donc, ce que j'essaye de vous dire là, c'est quand vous avez un champ d'expertise structuré comme ça, et que vous avez la presse qui passe son temps à leur demander « Alors, est-ce qu'il y a eu des cas, comme dit Benoît, dans le passé, et est-ce qu'aujourd'hui ça marche ?» En fait, même s'ils savaient que j'ai raison, ils sont dans une position où ils ne peuvent pas le dire. Parce que ces gens-là font bien leur travail. Et ils ont simplement une allégeance professionnelle spécifique qui les rend structurellement incapables de détailler les vulnérabilités nucléaires. Et c'est là l'importance de la recherche indépendante. C'est-à-dire on est les seuls à être en position de le faire. Parce qu'on n'est pas situé dans le champ de la même manière. Et donc ça permet, enfin j'espère vous en convaincre, de créer un espace de choix entre des alternatives clairement justifiées. C'est-à-dire on va pouvoir vous proposer de continuer ou de faire autre chose, pas de continuer ou de continuer. En fait. Le quatrième et dernier argument que je voudrais soulever, que vous avez sans doute entendu très très fréquemment, hein, c'est de dire il y a consensus en France. En France, on dit consensus. Au Royaume-Uni, ils n'utilisent pas le mot consensus. Mais il y a ce même postulat que les opinions publiques sont favorables à la politique de dissuasion nucléaire conduite en leur nom. Et ces mêmes experts répètent ces affirmations-là comme si elles étaient des résultats de recherche. Mais il y a des problèmes méthodologiques considérables en la matière. D'abord parce que, comme disait ma grand-mère, pour savoir la réponse, il faudrait poser la question. Or, cette question, on l'a rarement posée, et le seul qui la pose est, si on cherche, l'origine des chiffres qui sont répétés pour dire qu'il y a consensus, c'est le département de la communication du ministère de la Défense. Ce sont des gens charmants, donc je suis allé les voir, et je leur ai dit, écoutez, je suis très intéressé par comprendre comment fonctionne votre sondage. Est-ce qu'il varie avec le temps? Qu'est-ce que vous posez comme question? Ils m'ont tout donné. Ils ont été d'une transparence. Je leur rends hommage, je leur dis merci dans le livre. Et quand on regarde comment ils font, on découvre qu'en fait, ils font la même faute méthodologique que les experts dont je vous parlais tout à l'heure. C'est qu'ils acceptent dans leurs questions tous les postulats du discours officiel. Et donc, ce qu'ils font, c'est qu'ils ne mesurent plus le soutien, mais ils mesurent le succès d'une politique de communication institutionnelle. Le problème, c'est que les experts français répètent ces résultats comme s'ils étaient une preuve de consensus. Donc dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, tout simplement, moi je ne suis pas spécialiste des sondages d'opinion, donc j'ai recruté un collègue qui, lui, est spécialiste du design des enquêtes d'opinion. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on est allé voir le sondeur qui a fait le sondage pour la cellule de communication du ministère de la Défense. Et on le dit, madame, monsieur, voilà, nous allons essayer d'avoir des données un peu précises sur cette question-là. Et donc, pour le faire et pour éviter cette faute méthodologique, ce que j'ai fait, et c'est pour ça que je vous en ai parlé au début, c'est que j'ai posé aux interrogés, aux sondés, les questions qui correspondent aux engagements que l'État nucléaire attend d'eux, dont on a parlé au début. Les engagements en termes d'acceptation de la cible, en termes d'acceptation de la délégation de l'autorité au président et en termes de consentement à l'impôt. Mais je me rends compte, que j'ai été un peu trop rapide sur les fautes méthodologiques dans le sondage d'origine. Et peut-être que vous vous dites, Benoît, au fond, il est juste grincheux, on ne comprend pas ce qui ne va pas avec le sondage d'origine. Le sondage d'origine, en fait, demande à nos compatriotes, pour la protection, je répète, protection de la nation, est-ce que vous voulez la dissuasion nucléaire, la dissuasion conventionnelle ou les deux ? Voilà, si vous avez ri, vous avez compris la nature du problème. Donc, si vous voulez, en étude d'opinion publique, c'est un moyen d'orienter la réponse qui est absolument maximale. C'est-à-dire, on n'a pas de contexte, on incorpore les éléments... Donc ça ne va pas du tout. Donc ce qu'il fallait faire, c'était justement de le refaire en posant des questions qui sont moins biaisées. Et si on pose les trois questions que je vous disais, en termes de soutien actif pour les décisions du gouvernement, on a des niveaux de soutien qui sont extrêmement faibles. C'est aussi, j'aurais dû vous le dire, ce sont des sondages qu'on a faits à l'échelle des deux États dotés d'armes nucléaires à l'époque. Le Brexit n'était pas encore finalisé, mais donc on s'intéresse de toute façon au cas britannique. On a aussi fait des sondages dans les cinq États de l'OTAN qui hébergent des armes nucléaires américaines, et aussi en Suède et en Pologne, parce qu'elles avaient c'était des États qui avaient des positions affirmées sur ces questions. Donc en termes de soutien actif, pour les décisions du gouvernement, on a des niveaux de soutien qui sont extrêmement faibles. Si on a une définition du soutien plus large, qui n'est pas juste du soutien actif, mais qui a un soutien comme non-opposition, ça augmente un peu, mais on est toujours très loin de... Parce que je pense qu'il est raisonnable de dire que quand on dit consensus, une définition minimale devrait être supérieure à 50%. On en est très loin. Si on regarde quelle est la part des sondés qui acceptent deux des trois éléments, hein, le consentement à l'impôt et l'acceptation d'être ciblé, acceptation parfaite, on est à des niveaux vraiment bas, acceptation au moins partielle, on est à des niveaux toujours bas. Donc ce que je veux vous dire là, c'est pas du tout que la population française est secrètement opposée à l'arme nucléaire. C'est pas ça le résultat. C'est que il est faux de dire que la population française est massivement en faveur de l'armement nucléaire. Par contre, ce qu'on peut dire, c'est que si on distingue les attitudes possibles entre le soutien, l'opposition, l'indifférence et un certain nombre d'attitudes variées, on se rend compte qu'une des seules attitudes qui dépasse la majorité en France et qui atteint presque la majorité au Royaume-Uni, c'est simplement l'acceptation d'une participation limitée au débat du fait d'un manque de légitimité. Donc ce que cette politique a fait, c'est pas du tout de produire du consensus, c'est de produire de la résignation. J'en profite pour vous dire deux choses. Vous avez vu, je suis un peu pénible en termes d'administration de la preuve, donc je suis moi-même sceptique vis-à-vis du sondage comme outil. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a répliqué le même sondage en 2019, avec un autre institut de sondage pour maximiser la robustesse des résultats et tester la consistance. On trouve des résultats similaires avec une variation maximale de 2%. Donc ces résultats sont stables. On va mener... Le Covid nous a embêtés comme il vous a tous embêtés, donc on attend le moment où ça s'est calmé pour faire une nouvelle itération du sondage et voir s'il y a un effet après avant. Ça, je ne peux pas encore vous donner des résultats, j'aurais beaucoup aimé, mais on n'est pas encore au point, il faudra me réinviter si ça vous intéresse. Une fois qu'on a passé en revue ces quatre justifications qui sont donc incorrectes ou incomplètes pour rendre compte de l'existant, ce que je vous propose, c'est précisément de repenser nos paris sur l'avenir et les justifications possibles des politiques nucléaires sur les 70 prochaines années. Un des résultats du livre, c'est, et je ne vous en ai pas vraiment parlé, c'est que précisément les paris sur l'avenir et les mémoires du passé sont essentiels dans les justifications des choix nucléaires. Ce n'est pas juste la mémoire du passé, c'est aussi la façon dont on imagine la forme de l'avenir. Et donc les justifications cohérentes pour 70 années encore de confiance dans les armes nucléaires comme instrument de sécurité nationale et internationale, eh bien, ça exige des paris substantiellement différents des justifications publiques. Ça exige d'accepter un pari sur la vulnérabilité comme condition de la sécurité, donc qui suppose que la technologie ne va défaillir que quand on en a besoin et que, au fond, la technologie dans tous les arsenaux qui ciblent la France ne défaillira pas et que l'ennemi sera toujours dissuadable et ne sera jamais
en situation de vouloir nous attaquer en dépit de la prise de risque que ça suppose. On ne peut pas, et ça je peux vous en dire davantage, c'est un des grands arguments du livre, parce que j'avais une limite de temps, je ne voulais pas développer, mais demandez-moi si ça vous intéresse. Un des grands arguments que vous entendez du matin au soir, c'est la prolifération nucléaire, l'augmentation du nombre d'États dotés d'armes nucléaires est une loi de l'histoire qui, après la fin de la guerre froide, s'est accélérée. En fait, on peut démontrer, et ça, ça se retrouve dans le discours officiel, dans le discours expert et dans la presse, et on peut démontrer que c'est inexact. Donc on ne peut pas utiliser ça pour se dire, donc, dans un macro-contexte de prolifération, tout ce qu'on peut faire, c'est gérer l'existant. Voilà. Je vous ai parlé du fait que la justification par le contrôle parfait n'est pas satisfaisante. Donc le pari qu'on fait sur 70 ans, ce n'est pas un pari sur autant de contrôle que ce qu'on a eu avant. C'est un pari sur autant de contrôle que ce qu'on a eu avant et un pari sur la chance, sur le fait d'avoir autant de chance qu'on en a eu jusqu'à présent et un pari sur le fait que la menace nucléaire que nous allons formuler va produire de la peur et que cette peur va produire de la prudence. Sachant que dans l'histoire nucléaire, il y a des cas où la menace nucléaire n'a pas produit de peur, et il y a des cas où la menace nucléaire a produit de la peur qui a produit de la demande d'escalade. Quatrième élément qui est vraiment visible dans le contexte de la discussion nucléaire en Ukraine, c'est... Et vous entendez, Monsieur Sarkozy utilisait beaucoup ça, mais vous entendez comme justification officielle le fait qu'il y a un fardeau très lourd au chef de l'État nucléaire et qu'il a une grande responsabilité. Bien, on peut montrer en fait très simplement que si on suppose que la responsabilité exige la possibilité de la reddition de comptes, il n'y a pas de possibilité de rendre des comptes. Si jamais ce geste est accompli, d'une part. Et ensuite, ce qui est intéressant, c'est que ceux qui parient sur la fiabilité de ces systèmes d'armes ne parient pas sur la rationalité d'un homme seul. Ils parient au contraire sur la responsabilité distribuée dans la chaîne de commandement et ce que j'ai appelé la désobéissance opportune. C'est-à-dire, ils partent du principe, et ça, ça se retrouve dans certains discours. Pour le coup, vous avez là les généraux de plateaux télévisés qui parlent sur l'Ukraine. Nombre d'entre eux vous disent « Ah, vous savez, si M. Poutine donne l'ordre, quelqu'un va désobéir. » C'est ce pari-là. C'est-à-dire, on va créer une institution où on va former les gens à obéir tout le temps. Mais le pari, c'est qu'ils sauront quand il faut désobéir. Ils désobéiront à ce moment-là, mais jamais à aucun autre moment. Donc c'est ça que j'appelle le pari sur la responsabilité distribuée le long de la chaîne de commandement, c'est-à-dire en cas d'un ordre fou, il y aura quelqu'un dans la chaîne de commandement qui désobéira. Et donc la responsabilité ne réside pas dans la seule personne du chef de l'État, mais dans cette chaîne de commandement comme agrégat. Et donc je termine. En fait, la proposition que je vous fais et que je nous fais à tous en tant que citoyens, c'est de dire qu'il faut désacraliser sans conventionnaliser les armes nucléaires. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ne pas les conventionnaliser, c'est-à-dire ne pas oublier que ce sont des armes très particulières qui ont une capacité de destruction spécifique et sans commune mesure. On pourra en détailler si ça vous intéresse. Mais les désacraliser au sens où on doit de nouveau être capable de les traiter comme des instruments au service d'une politique de défense. Et moi, mon objet, mon but, c'est de dire on doit être capable de poser la question quel système d'armes pour quelle politique de défense pour la France et pour l'Europe à horizon de 70 ans, puisque c'est l'horizon de la planification industrielle. Et en fait, est-ce que je peux continuer 2 minutes? Alors, je continue 2 minutes parce que j'avais des demandes à vous faire. Mais juste pour que vous voyez, parce que je comprends que c'est assez contre-intuitif et qu'on se dit, mais en fait, on est verrouillé dans cet avenir nucléaire. Et je vais juste vous présenter 4 imaginaires de l'ennemi à venir qui sont très différents et qui, à eux seuls, orientent vers des possibilités nucléaires très variables. L'imaginaire de l'avenir dans lequel la conversation que nous avons en France se tient, c'est l'idée que dans les 70 prochaines années, 70, hein, rendez-vous compte, il y a 70 ans, la France n'avait pas d'armes nucléaires. La population mondiale était inférieure de plusieurs milliards, l'exode rural n'avait pas encore commencé. Enfin, 70 ans, c'est un temps considérable. Donc, premier imaginaire de l'ennemi, c'est l'ennemi des 70 prochaines années, c'est un ennemi dissuadable seulement avec des armes nucléaires et avec les armes nucléaires que nous avons pour projet de construire aujourd'hui. Il se peut que cet ennemi existe. Mais on peut aussi envisager un autre avenir dans lequel l'ennemi va être dissuadable avec des armes nucléaires ou d'autres. S'il est dissuadable avec des armes nucléaires ou d'autres, ça nous ouvre déjà une possibilité de panachage des capacités qui composent l'arsenal. Troisième avenir, pensez, je ne sais pas qui d'entre vous est intéressé par la question des limites planétaires et la question du changement climatique. Si vous regardez les modèles du GIEC, la trajectoire climatique dans laquelle on est à horizon 2050 est catastrophique. Donc, à horizon 2090, donc il y a un avenir envisageable dans lequel, ben, au fond, la menace existentielle, elle n'est pas dissuadable ou pas dissuadable avec des armes nucléaires parce que c'est une menace qui relève du changement climatique et de survie de la vie sur la planète. Donc, ça peut, et je ne dis pas ça par provocation. Je dis ça simplement pour dire que le raisonnement nucléaire est un raisonnement qui exige un certain nombre de postulats. C'est un raisonnement qui, là, littéralement, peut dire « Oui, mais si ça n'explose pas, on pourra appeler ça un succès de la dissuasion nucléaire. » Mais pour qu'il y ait succès de la dissuasion nucléaire, il faut que la France reste habitable. Si la France n'est plus habitable pour des raisons non liées à ce à quoi sert l'arme nucléaire, on ne va pas pouvoir dire « Il ne reste plus de pays, mais la dissuasion nucléaire a marché. » C'est un argument qui n'aurait aucun sens. Donc, vous avez ce troisième avenir qui est envisageable. Quatrième avenir, un avenir dans lequel l'ennemi futur est capable de hacker nos armes nucléaires ou tout simplement nous supposons tous qu'il en est capable, même si ça n'est pas vrai. À partir du moment où on suppose tous que l'ennemi futur est capable de hacker nos armes nucléaires, il faut se débarrasser de ces choses le plus vite possible. Parce que ça veut dire qu'il peut littéralement les utiliser pour causer de la violence en notre nom, dont nous serons responsables, et pour lesquelles nous subirons les conséquences. Donc vous voyez, avec un brin d'imagination, je ne sais pas lequel des quatre va advenir. Je ne sais pas du tout, je ne suis pas Madame Irma, je ne vous dis pas, moi Benoît, je sais quel est le futur. Je vous dis simplement qu'on opère notre discussion simplement comme si le seul champ des possibles était le premier. Et ça, c'est totalement déraisonnable. Et tout cela suppose évidemment une absence d'explosion nucléaire non désirée dans notre arsenal et dans tous ceux que cible la France, y compris des arsenaux aussi sûrs que l'arsenal pakistanais ou nord-coréen, dans les 70 prochaines années. Mais oui. Donc j'en termine en vous formulant des demandes. Souvenez-vous, mesdames et messieurs, et après j'écouterai vos questions, que vous ne pouvez pas choisir de ne pas être affecté par la politique nucléaire. Cette politique vous demande déjà des choses en tant que citoyen et citoyenne. C'est pour ça que je me permets de vous monopoliser à l'heure du dîner. Si vous vous souciez du climat, bien vous souciez du climat ne vous protège pas de la menace nucléaire. Et c'est quelque chose que j'essaye de travailler parce que c'est vraiment frappant. C'est-à-dire, les gens qui se soucient de la menace nucléaire ne prennent pas bien en compte la question du changement climatique et des limites planétaires. De la même manière, les étudiants qui sont très orientés vers la question du CO2 opèrent comme si les armes nucléaires n'existaient plus. Pour moi, l'enjeu un peu raisonnable, c'est d'arriver à accepter qu'on est dans un monde dans lequel il y a un changement climatique rapide et des armes nucléaires. Et donc, très modestement, je crois que la recherche indépendante peut vous aider. Et encore une fois, elle est facile à distinguer du militantisme pro ou anti-nucléaire. Donc ce que je vous demande, c'est simplement de n'être ni crédule ni résigné, résigné à cette idée qu'au fond tous les discours sont pareils, tout est opinion, Benoît il va dire un truc et demain matin il y a machin qui va dire l'inverse et c'est tout pareil. Donc quand vous êtes confronté à des affirmations péremptoires sur les questions nucléaires, ne faites pas confiance, je ne vous demande pas de me faire confiance. Si vous avez le moindre doute sur quoi que ce soit que je vous ai dit, je vous en prie, demandez-moi. Mais en général, demandez-vous, est-ce que l'expert qui vous parle se reconnaît comme militant ou pas? Si oui, bon, bah, s'il le dit, c'est que c'est vrai. Mais s'il ne le dit pas, il faut poser la question suivante. Qui le finance? En France, on croit que demander aux gens qui les finance, c'est une question mal élevée. Ce n'est pas une question mal élevée, c'est une question salutaire. Si vous me demandez qui me finance, je vais vous répondre en détail et je vais vous prouver que je ne vous mens pas. Ensuite, reprend-il des catégories officielles ou des catégories militantes? Si oui, il y a un problème, parce qu'il sera incapable d'évaluer. Et y a-t-il un décalage entre arguments et preuves? Donc voilà un petit outillage qui va vous permettre de naviguer tout un tas de discours nucléaires que vous allez entendre longtemps après mon passage ce soir agréable à Saint-Étienne. Je finis en vous disant que si la guerre en Ukraine finit sans explosion nucléaire, on va évidemment avoir une précipitation à vous dire que donc les procédures de contrôle ont marché. Et il sera trop tôt pour le dire. C'est possible. Je ne vous dis pas que ça sera faux. Je vous dis que ça sera trop tôt pour le dire. Donc ce que vous pouvez faire par ailleurs, c'est évidemment lire le livre, suivre le compte de mon équipe sur Twitter, Nuclear Knowledges. Si vous avez trouvé quoi que ce soit d'intéressant, nous aider à diffuser ces résultats. Vous pouvez aussi demander à vos élus de clarifier leur position sur quel est l'avenir du nucléaire auquel ils pensent pour le pays et pour l'Europe. Parce que c'est quand même frappant qu'on ait plusieurs campagnes présidentielles dans lesquelles c'est jamais posé, ni au début ni à la fin. Moi, je ne vous demande pas du tout de leur demander une position particulière, juste de leur demander de la clarté et de leur demander de prendre conscience du fait que c'est une dimension de la politique nationale qui est cruciale. Et je termine, et c'est mon dernier mot, en vous disant, n'oubliez pas que tout ce que je vous ai présenté ce soir, en dehors du fait que ça m'a fatigué pendant 15 ans, ça n'a été possible que grâce à la recherche indépendante que j'ai eu du mal à imposer et qui est chaque jour attaquée et qui a besoin de votre soutien. Je peux vous dire qu'un grand nombre de gens ne veulent vraiment pas que ce travail continue. Je les regarde avec le sourire, je vais continuer à travailler, et votre soutien sera précieux. Merci.